Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. À voix haute, une émission de Meredith Ledez.
Bonjour, ce samedi dans À voix haute, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ou redécouvrir La verticale de la lune, le premier roman de Fabienne Juel, paru aux éditions Zulma en 2005. J'ai jeté Nadine dans le puits. J'ai attendu que maman s'endorme pour sortir dans le jardin. Dehors, j'y voyais comme en plein jour. La lune faisait son remplissage au-dessus de nos têtes, ses cratères comme des yeux de bonhomme triste. Je la déteste quand elle prend sa mine de monsieur loyal. Alors, j'ai regardé les étoiles avec Nadine à bout de bras. C'était comme lire du braille de très loin, lire du braille avec le nez morveux. Un chien a hurlé dans la nuit un rêve de sang et de crocs. Puis sa plainte s'est hissée jusqu'au vallon et j'ai entendu le bruit d'un volet qui claque contre le mur. Un homme a crié, le chien s'est tu. J'ai pensé que le chien devait avoir soif d'étoiles, qu'elle lui faisait le coup des étoiles mortes, elles aussi. Mais c'était peine perdue. Le chien et les étoiles, ça ne parlait pas le même langage. Un peu comme moi et Nadine. Et j'ai frissonné sous ma robe. Ce n'était pas la peur ni le froid, mais une émotion nouvelle qui m'avait saisie au moment où j'ai étranglé Nadine. J'ai marché jusqu'au puits, comme ça, toujours traînant Nadine par le bras. Son corps serpentait dans l'herbe, une caresse humide qui faisait gicler des gouttes de rosée sur mes pieds. J'adore marcher dans l'herbe nu-pied. C'est une habitude d'enfant indocile, héritée de mon premier contact avec la matière. Un soir, mes parents avaient laissé mon berceau dans un jardin d'amis. Ivres, ils avaient regagné leur chambre sans se demander qui d'entre eux avait couché la gamine. Un chien était venu me flairer et, du bout du museau, il avait poussé le couffin pour jouer avec les langes qui faisaient de moi, de mon visage blanc endormi, une petite sœur de la lune. Mon corps de poupon avait roulé dans l'herbe pendant que le chien essayait ses crocs sur le tissu. Et j'avais fini ma nuit, comme ça, à crapahuter avec les escargots et les hérissons mangeurs de pommes, le ventre humide, les coudes et les genoux rouges d'avoir raclé la terre. On m'avait trouvé au matin, endormie sur le dos, au bord de la rivière, emmaillotée de la bave scintillante des escargots. J'ai aperçu le puits avec sa pompe, l'ombre d'un mécano que les rayons de la lune projetaient sur le mur du poulailler, et puis l'anneau de granit qui lui fait une bouche édentée dans l'herbe. Celle d'un gnome surgit de la terre qui réclamerait aux enfants un tribut en jouet contre la promesse d'un sommeil serein. C'est le puits qui a décidé maman à acheter la maison. Elle a bien fait. Quel âge a Nadine ? Sans doute le même âge que moi. Mais maman ne fête jamais les anniversaires et j'ai renoncé à compter depuis que j'ai appris que les saisons n'étaient pas des années. Je crois que je suis née un jour de décembre, un mois en breu, où, dans ma région, on peut manger des huîtres sans crainte de tomber malade, ni attenter à leur processus de reproduction. J'aime à penser que je suis née un jour de tempête, comme Chateaubriand, et que, comme lui, je vais traîner une existence mélancolique et secrète. J'ai encore regardé autour de moi. Les fenêtres de la maison étaient calmes sous leurs paupières de verre. Le souffle asthmatique des effraies, hissé sur la cheminée, remplissait le silence laissé par le chien. Avant, Je ne savais pas que les chouettes respiraient comme ça, si fort, en dormant. D'abord, je croyais qu'elles chassaient toute la nuit les rongeurs incrédules. Et puis quand Teresa, c'est la bonne, en a découvert trois petites qui ronflaient dans la cheminée de ma chambre, j'ai compris que les oiseaux de nuit avaient, eux aussi, un sommeil agité. Il faut dire que je quitte souvent mon lit la nuit pour écouter les étoiles ou parler à la lune au fond du puits quand elle veut bien m'y retrouver. En l'attendant, j'ai eu le temps d'échafauder ma petite théorie sur les deux sortes d'êtres qui peuplent le monde, les dormeurs et les réveillés. Les réveillés sont les sentinelles, les traceurs de route, les éclaireurs muets, les guetteurs d'aube. Avec le chat orange, j'appartiens à cette famille de nyctalopes à laquelle se mêlent les hérissons, les effraies, quelques chiens somnambules et les lapins gris. Maman, elle, fait partie de la seconde. Elle a le sommeil tranquille d'une enfant aux boucles d'or que les fées, ses marraines, ont gâtées. Quand elle ouvrira les yeux sur la lumière du monde, à peine quittée, elle l'ira remplir le jour, sans se douter des territoires conquis en son absence par les sentinelles. Maman s'appelle Marie, comme la Vierge bleue, comme la mer, comme la moitié des bateaux de pêche qui vont à la coquille dans la baie d'Ilion. Marie comme Maria, l'iguane paresseux que Teresa a possédé enfant, dont elle garde une photo en noir et blanc dans un album de famille et qu'elle sort tous les soirs pour le placer sous son oreiller avant de s'endormir. Teresa a 30 ans et ne sait pas danser. Teresa est grosse et ne plaît pas aux hommes. Teresa sent bon. Teresa cuisine bien. Teresa m'aime. Un jour, elle m'emmènera au Mexique voir les iguanes sur la plage. Maman, elle, ne m'emmènera nulle part. Elle voyage sans bagages et part sans prévenir. Des absences qui ont le goût des voyages au long cours. Car je sais qu'elle va voir la mer. Elle prend une chambre d'hôtel dans un de ces établissements de l'ancien temps, le plus proche du quai dont le promontoire fait une saillie régulière au-dessus de la plage, un hôtel avec la rouille des gonds des volets qui a bavé sur le blanc décrépit de la façade. Elle demande une chambre seule, avec un grand lit qui sent la naphtaline, la saumure et le bois humide. Une chambre en demi-pension, comme un VRP triste qui économiserait sur le prix de l'hôtel pour s'offrir un Bordeaux ou une gâterie chez les dames derrière la gare. Le soir tombé, maman prend le chemin des douaniers pour poser ses yeux sur le large, bien large, pour fermer ses lèvres sur le vent et ses goûts d'iode. Maman est une bête étrange, un mystère, une tombe. Maman et ses vagabondages. Pour la comprendre, j'ai dû faire appel à mon ingéniosité d'enfant, à mon sens pratique et à ma superbe intelligence frontale. Car j'ai un grand front à défier les coiffeuses frileuses, les inventeuses de franges. Moi, si on me laissait jouer avec les ciseaux, je me ferais la tête de cette chanteuse irlandaise à la voix d'ange qui file des caresses en douce au bas-ventre. Car j'ai une très grande connaissance de ces choses-là. J'ai fait l'amour à tout ce que la terre porte d'arbres. Enfin, je veux dire que j'ai pour périmètre affectif les arbres du domaine, et encore, ceux les plus éloignés de la maison. Je ne voudrais pas que Teresa aille surprendre mes ébats. Elle ne comprendrait pas, elle dont le pays est rempli de cactus. J'aime surtout les hêtres. Les hêtres à la belle écorce sombre et dense. Les hêtres dont le fût traverse d'un élan sourd la terre et le ciel. Des hêtres aux petites feuilles ciselées et pointues qui ont le goût de la menthe sauvage en avril et la finesse d'une crêpe dentelle servie avec la glace du même parfum. Oh, c'est une affaire très simple et terriblement excitante, comme une envie de pollen au déjeuner d'une abeille. Au matin, il faut qu'il fasse soleil, que la lumière perce à travers la clairière pour réchauffer l'écorce, que les oiseaux ramagent pendant que je me déshabille. Puis j'offre mon petit corps lunaire à la matière, mon petit corps chiffonné de la nuit à la densité. Sous l'écorce brute, les nœuds du bois séculaire, l'éternité contre ma vie de vivante écourtée, accidentable et sécable. Bien vite, je sens comme une boule chaude contre mon ventre, un second cœur qui bat et palpite entre mes cuisses. Je me durcis de l'intérieur. Mes bras en serrent le fût, mes épaules débordent pour s'enrouler autour de l'arbre. Mes jambes répondent à mes bras dans un échange symétrique. Je suis losange, je suis araignée, je suis leurre pour effrayer les chiens marqueurs. J'attends. J'attends comme cela des minutes qui font des heures, jusqu'à ce que mes muscles bandés se tétanisent sous la douleur. Je passe le cap des picotements, des crampes, des moucherons gris sous mes paupières, et je m'évanouis. J'ai été arbre dans un rêve végétal. Maman n'en saura rien, et je ne dirai rien à Teresa. Je ne raconte mes rêves à personne, sauf aux arbres. Une petite blessure à fleur d'écorce. Les mots se déversent entre mes lèvres et coulent dans la bouche de l'arbre. Puis, je prends un peu de terre que je mélange à de l'herbe avec ma salive pour colmater le trou. Que mon désir n'aille pas traîner dans les consciences animales aux alentours qui l'attendent bien gentil, la transsubstantiation des mots en acte. Le miracle. Parfois, l'arbre et moi, nous nous contentons de préliminaires, l'écorce au bout de mes doigts dont la connaissance me monte jusqu'aux dents. Je lèche, je bois sa transpiration végétale. Sous ma langue, les picotements qui captent la montée du flux dans ses belles veines interminables. Je frotte ma bouche contre l'écorce, je m'y débarbouille les joues, j'y laisse ma salive, ma peau et un peu de mon sang en échange. Dans l'allée centrale, où les mauvaises herbes s'épanouissent en étoiles vertes parmi les cailloux blancs, je mastique les yeux clos des brindilles, amulettes noires et rousses qui ont pour moi le goût des naufrages. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away. 'Cause
À voix haute, Meredith Ledez.
Je suis rentrée dans l'ordinateur de maman en son absence. Un soir de pluie. Le matin, je m'étais réveillée avec l'envie au ventre. Le ciel qui bandait gris s'était moqué de mes désirs d'acquaintance avec le plus grand être du parc. J'avais traîné en chemise de nuit toute la journée sous le regard noir de ma belle mexicaine. Et puis, en fin d'après-midi, pour rendre au ciel ses coups bas et lui faire ravaler ses cordes de pluie, j'ai fait couler un bain très chaud pour Nadine et pour moi. C'était avant que je m'en débarrasse, avant que maman ne revienne nous éclabousser de sa joie. Teresa et moi avons instauré une entente tacite quand maman n'est pas là. De nouvelles règles qui bousculent toutes les autres, comme le bel ordonnancement des pièces d'un puzzle où le bleu du ciel serait abyssal et les mouettes un banc de sardines. Nous redistribuons ainsi nos rôles. Je cuisine des faritas au dîner que nous mangeons ensuite dans sa chambre sous la couette, avec le chat orange et un verre de tequila. Elle emprunte le coupé pour descendre au village, tandis que je mène la vie dure à son vélo dans les sentiers creux, et que les chiens des fermes bavent d'envie derrière les rayons. Je patine dans le bourrelet d'herbe déroulé en plein milieu du chemin. Je ris aux éclats en regardant le ciel à l'envers, sûre de verser bientôt dans le fossé. Il n'y a plus d'heure. Les repas se prennent en décalé, les lits défaits de la nuit pour nous tenter à tout instant. Nous allumons des bougies aux senteurs d'agrumes dans la salle de bain. Teresa remplit la moitié de la baignoire, y verse des huiles essentielles et déshabille son corps du mensonge. Sa croupe de Vénus calipige provoque des rats de marée d'eau douce. Ses seins des îles généreuses se laissent aborder par mes mains d'apprentie indienne. Elle chante des airs de crooner à la mode qui m'arrachent des frissons de plaisir déguisés en chair de poule. Ce soir-là, j'ai attendu que Teresa sombre, abrutie de tequila, dans les bras d'un de ces dieux à coiffure d'oiseau. Je suis descendue dans le jardin d'hiver où maman a installé son bureau. Je me suis hissée sur le tabouret près de la table au plan incliné, celle où elle déroule de grandes feuilles blanches qui, quand on les froisse, font un bruit de papier beurré. J'ai joué à tracer des lunes pleines avec le compas, des lunes et des planètes parfaites, des étoiles, des fleurs, des courbes et des fesses. La lumière crue m'a donné des envies d'interrogatoire. J'ai regardé autour de moi. Mon regard s'est heurté aux vitres bleues qui m'interdisaient le ciel. La nuit avait glissé dans le rail des baies ses panneaux pleins. La véranda prenait son air sinistre de boîte en bois, un catafalque dressé au milieu de la boîte ardente. Alors, c'est venu là, pour la première fois, le goût de la terre impossible dans la bouche. La progression silencieuse des racines sous les pieds du tabouret, sous la table, qui m'encerclait de leurs tentacules. La vibration du bois nervuré, la poussée cylindrique des rides à l'intérieur du tronc, le grattement des fibres pincées sous l'écorce. J'ai éteint le néon pour me rassurer avec les étoiles. Mes yeux se sont habitués à l'obscurité et la nuit est rentrée avec moi à l'intérieur, la nuit et le jardin. C'est alors que j'ai aperçu une étrange source de lumière. L'ordinateur de maman vivait sa vie après son départ. Il rendait à la nuit l'accumulation d'énergie emmagasinée, son offrande de phosphore dans un ciel pansu noir. Je l'ai vu comme si je le voyais pour la première fois, comme si, éteint, il avait la séduction de l'interdit. Je n'ai pas mis longtemps à deviner le mot de passe. Même si j'ai d'abord hésité entre le nom du chat orange, celui de jeune fille de maman, ou celui de ce batracien dont elle a fait son totem. Un pestiféré qui habite sous la plaque de la fosse septique. J'ai éliminé le nom de jeune fille, trop facile. J'ai regardé le rouquin qui ne me regardait pas. ça m'a décidé à entrer les 7 lettres du mot « crapaud ». J'avais vu juste. Dans les archives, j'ai découvert un mois de correspondance addictive avec une certaine veuve des îles. Puis, maman est rentrée de son voyage avec un sourire de vestale, le feu aux joues et les cheveux défaits. La nuit même, j'ai fait payer à Nadine son sourire figé, ses pommettes en celluloïde et ses cheveux emmêlés. Maman a passé 6 jours avec nous. Le premier jour, elle a répondu au courrier et dessiné le plan d'une crèche. Le soir, je l'ai entendue parler au téléphone, une conversation remplie de silences et de soupirs. Le lendemain, elle est revenue de la ville avec des sacs de magasin, des dizaines de sacs pleins d'une nouvelle garde-robe et de cadeaux. Elle nous avait acheté un livre, un coupe-vent et une peluche pour le chat, Teresa et moi. Dans le désordre, tant elle était excitée. Elle a tenu des propos incohérents sur de possibles vacances au Mexique, avec Teresa comme guide, où il était question d'emmener aussi le chat. Le soir, elle a de nouveau passé des heures au téléphone, une conversation remplie de soupirs et de soupirs encore. Le troisième jour, elle a rapporté d'une brocante un miroir Louis-Philippe qu'elle a placé au-dessus de la cheminée du salon, un miroir un peu voilé qui donnait à nos visages des contours vaporeux, des ovales très doux. Le soir, elle a encore téléphoné. Le quatrième, elle a voulu cuisiner un kikafar au dîner. Le plat traditionnel du Finistère s'est transformé en une simple potée bretonne, Teresa n'ayant pu dénicher l'indispensable sac en toile de jute qui devait contenir la pâte à base de farine de blé noir et de froment. Le soir, elle a de nouveau été pendue au téléphone. Le cinquième jour, maman s'est rendue à 2 rendez-vous en ville et s'est acheté un nouveau téléphone portable, un qui fait des photos. Elle a tenu à nous faire une démonstration immédiate en photographiant la maison sous tous ses angles. Au moins, ça pouvait servir aux assurances en cas de vol, j'ai pensé. Le soir, elle a téléphoné avec son téléphone portable. Le dernier jour, elle s'est épilée à la cire. La salle de bain sentait l'Orient de synthèse. Puis, elle s'est talqué le corps et a fini par s'appliquer un masque d'argile qui l'apparentait à un acteur de théâtre japonais. J'ai regardé tout cela, assise sur le rebord de la baignoire. Maman souriait au miroir, à moi ou à quelqu'un d'autre. Le soir, elle s'est précipitée sur le téléphone qui a sonné avant que Teresa ne décroche. Le septième, elle est repartie vers l'Atlantique avec le début d'un sourire, fredonnant une chanson aux rimes idiotes qui parlait d'aimer longtemps et d'amant sous le vent ou dans le vent. Ce jour-là, on a fait comme Dieu, Teresa et moi. Nous nous sommes reposés. Maman nous avait épuisés. Et il est arrivé, lui, le géant des terres de feu. Je l'ai vu franchir la grille du parc, un sac de marin sur les épaules. Je l'ai regardé s'approcher à grandes enjambées dans l'allée au gravier blanc. À mi-chemin, il a hésité. Il s'est arrêté, a pivoté sur lui-même. Un tour complet pour observer le domaine, la main en visière. Il a lâché son sac et traversé la pelouse pour entrer dans le sous-bois de son pas d'ours. Je l'ai perdu de vue quand il a franchi la jeune plantation des tuyas. Mes yeux sont revenus sur le sac. J'ai quitté la fenêtre pour aller ouvrir la porte d'entrée. Je suis sortie dans la lumière. Une flottille de merles barbouillait l'herbe verte à la recherche de brindilles de chair mobile. Ils se sont envolés en protestant de tout leur tri jaune entre leurs becs sans dents. Je me suis approchée du sac. Un polochon en toile beige dont le pan, tenu à bout de bras tout à l'heure, ployait comme la tête désarticulée d'un chien noyé. Quelqu'un avait écrit au gros feutre rouge un matricule à 7 chiffres et dessiné une hache plantée dans la souche d'un arbre. La toile laissait deviner ça et là des bosses que j'ai voulu tâter. Mais l'homme est réapparu. Je ne l'ai pas entendu venir. Il se déplaçait vite et silencieusement, comme l'Indien qu'il était, comme papa lorsqu'il sortait de ma chambre après m'avoir raconté une histoire pour m'endormir. Je n'ai pas eu peur quand sa grande ombre est venue m'envelopper. Il n'a rien dit. Il a saisi son sac qu'il a balancé d'un coup sur ses épaules. J'ai entendu trincailler. Un bruit de métal qui s'entrechoque, la cacophonie d'une série de casseroles ricochant sur l'asphalte que des gamins rieurs accrochent à l'arrière d'une voiture. Puis, il s'est remis en marche en me dépassant. Alors, j'ai vu ses mains. Des mains comme d'ébattoirs, des mains de géants, d'incendiaires, d'écorcheurs, des mains d'hommes à la recherche d'une planète. Et sa main droite qui boutonnait sa chemise. J'ai trottiné dans son ombre, jusqu'au perron de la maison. Teresa était debout sur le seuil. L'homme a dit qu'il était bûcheron. D'abord, les figues de Teresa dans mes yeux noisettes, puis l'assassin debout à côté d'elle, ses échardes de marne sombre et bleutée plantées dans mes yeux à moi. Je m'étais évanouie. Teresa m'a aidée à m'asseoir dans le canapé. « C'est mon anniversaire, » j'ai dit. Même si ce n'était pas vrai, même si c'était vrai, même si je ne savais pas. L'homme a souri. Teresa a paru surprise, mais n'a pas démenti. « C'est mon anniversaire, » j'ai répété. L'homme a fouillé dans son sac et m'a tendu une petite quille en bois, entourée d'un morceau de ficelle grossière, une de ces ficelles jaune paille qui sent le grésil et le goudron et qui laisse à nos paumes des ampoules roses. La quille était légère en bois brut, avec 5 anneaux rouges et bleus dont la peinture commençait à s'écailler. Des vers y avaient planté leur corps comme de minuscules drilles qui ouvraient à l'intérieur du bois un réseau de veines. Une petite bonne femme sans bras, une ballerine tout en buste et en jambes, qui m'a fait penser à Nadine, que j'avais jetée dans l'eau glacée du puits. L'Indien s'est installé dans la cave en attendant le retour de maman. Il s'est fabriqué un lit de fortune avec un matelas tout bosselé que Teresa menaçait hier encore d'un tour à la déchetterie. Le soir, il a sorti ses armes d'assassin. Une véritable panoplie. Il a commencé par affûter la petite hache avant de passer le bout de son pouce sur le tranchant de la lame. J'ai vu une fine entaille rosir la chair du doigt. Il a souri, satisfait. Il a recommencé avec une autre hache, plus grande, plus lourde, qu'il a coincée entre ses cuisses. Je l'ai vu encore faire avec une faucille, une machette, une serpe, un long couteau qu'il a dégainé d'un étui en peau de chèvre. Il a disposé toutes ses armes en arc de cercle sur la table de la cuisine comme des trophées, ses trésors. J'ai regardé tout cela en plissant les yeux entre mes cils. La vision vacillait, les lames se fondaient dans les nœuds de la table. Quand Teresa a allumé dans la cuisine, les lames ont scintillé violemment. Une gerbe d'étincelles, jaillie du métal poli, a diffracté la lumière de l'ampoule nue. J'ai fermé les yeux sur ce feu d'artifice silencieux. L'Indien a dit qu'il commencerait par les arbres que la tempête de l'hiver dernier avait couchés. « Il faut attendre maman, » j'ai dit, « pour retarder le massacre. » L'homme a haussé les épaules, il a bâillé, il avait faim. C'était « La verticale de la lune », le premier roman de Fabienne Juel paru en 2005 aux éditions Zulma. Cette émission était, comme toujours, réalisée par Frédéric Guillon. Vous avez pu entendre en interlude musical une chanson de Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain dimanche pour une nouvelle lecture à voix haute et je vous souhaite une excellente soirée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.